Salut à tous et bienvenue dans ce magazine qui nous emmène aujourd'hui en haute montagne. Nous sommes en compagnie de Julien Charron. Julien Charron, bonjour.
Bonjour.
Julien, vous êtes chargé de mission au sein du Parc National des Écrins, avec notamment la qualité de guide de haute montagne. C'est pour ça que je parlais donc d'alpinisme. Vous surveillez en quelque sorte, vous êtes chargé de surveiller et de participer à une équipe qui surveille la haute montagne, dont on sait qu'elle a quelque peu souffert, en particulier cet été.
Oui, en effet. Donc, je suis chargé de mission sur trois thématiques au Parc National des Écrins, sur les glaciers, sur les activités de pleine nature et sur les refuges. Et c'est vrai que tous ces domaines sont impactés par le réchauffement climatique.
Alors, concernant les glaciers, on a eu de temps à autre Martial Bouvier sur ce micro, parce qu'on sait qu'il suit de près les glaciers et leur évolution. Mais en fait, au niveau de vos activités, vous ne travaillez pas que sur les glaciers. Vous avez aussi, vous participez à la convention alpine au niveau d'une convention qui permet d'accorder les pratiques au cœur du parc, par exemple. Expliquez-nous tout ça, comment ça fonctionne entre les gens des métiers de la montagne et la façon dont le parc travaille avec eux.
Une des missions du parc est bien sûr de rendre compte de ce qui se passe en haute montagne, mais il s'appuie aussi sur les acteurs locaux qui sont nombreux à travailler en haute montagne, vous l'avez dit, hein, on parle des gardiens de refuge, on parle des guides de haute montagne, des accompagnateurs, et ces personnes sont aussi amenées à faire des observations qui peuvent être utiles au parc et aux scientifiques. Et ils nous font aussi remonter des difficultés qu'ils peuvent avoir dans leurs activités, entre autres par rapport au réchauffement climatique.
Oui, voilà, on va parler donc notamment de l'effet du climat sur la haute montagne. On sait que cet été, il y a eu des chutes de pierres. On observe d'une certaine façon une accélération des phénomènes. Vous êtes chargé aussi des activités de pleine nature, et ça, on va en parler rapidement. Ça veut dire quoi, en fait, le suivi des activités de pleine nature ou des sports de pleine nature au cœur du parc?
Alors, ça veut dire tout simplement gérer ces activités en cœur de parc. Vous savez que le cœur d'un parc national en France, c'est un endroit qui est assez réglementé, enfin strictement réglementé. Et toutefois, les activités de pleine nature sont autorisées si elles respectent le caractère du parc national.
Alors, c'est quel caractère, qu'est-ce qu'il faut respecter et quelles pratiques autorisées?
Alors, le caractère, il a été défini dans la charte du parc national, comme tous les parcs nationaux en France. Et donc, c'est respecter une certaine éthique, en tout cas pour l'alpinisme, par rapport à l'équipement. Et les autres activités de pleine nature qui sont réglementées en cœur de parc, c'est le vol donc en parapente et le survol en planeur. Donc, pour pouvoir s'organiser avec les pratiquants, il y a des réunions qui s'organisent tous les ans, qu'on appelle des comités de pilotage, qui permettent de se mettre tous d'accord sur comment est-ce qu'on pratique ces activités en cœur de parc.
Et vous avez parlé d'équipement, ça veut dire que si on veut équiper une voie d'escalade, ça passe par vous aussi?
Alors moi, mon rôle, c'est d'animer donc la commission alpinisme, et ça veut dire que n'importe quel équipeur qui veut ouvrir une voie en cœur de parc, il doit faire une demande auprès de cette commission. Et mon rôle, c'est donc de la diffuser auprès des membres, hein, qui sont des représentants des fédérations de la montagne, FFME, FFCAM, des guides, l'association des gardiens de refuge, Mountain Wilderness, l'Office national des forêts et le secours en montagne. Et ensuite, j'anime un débat sur chaque demande d'équipement ou de rééquipement, et le comité de pilotage, à la fin, donne un avis favorable ou non au projet de l'équipeur.
Alors c'est autour de pratiques qui, on peut dire, qui sont assez anciennes, mais il y a des évolutions dans ces domaines-là?
Alors la convention alpinisme proprement dite, elle date de 1992, elle a été retoilettée en 2012. Il y a des changements qui sont dus en particulier au réchauffement climatique, puisqu'on a des voies qui démarraient sur des glaciers, qui démarrent toujours sur des glaciers, mais comme il y a eu un gros recul glaciaire, on a parfois l'attaque d'une voie historique qui se retrouve à 40 mètres au-dessus du sol. Donc là, on a tout simplement le problème de comment on fait pour accéder au départ de la voie historique. Par exemple, la voie Ribuffa au pavé, on a été obligé d'équiper 40 mètres quasiment de voies nouvelles pour pouvoir atteindre le début historique.
Ça a commencé par des échelles au début, ce genre de choses ?
Alors ça dépend de la nature du rocher. Des fois on a une moraine complètement instable, donc il faut tracer un bout de sentier et c'est très compliqué. Et là c'était plutôt du rocher très compact, poli par le glacier, puisqu'il était recouvert par un glacier avant. Et donc là il a fallu installer quelques chevilles à expansion, comme on dit dans notre jargon, ou des spits.
Voilà. Oui. Donc la grimpe commence plus tôt.
Voilà, la grimpe commence plus tôt et des fois, dans ce cas-là, typiquement, la première longueur de corne est beaucoup plus difficile que le reste de la voie. Donc c'est assez surprenant, mais c'est des adaptations que nous sommes obligés de faire.
Alors vous-même, vous êtes, on l'a dit, vous êtes guide de haute montagne. Est-ce que dans la pratique courante de la haute montagne, on voit les choses évoluer, on va dire, d'année en année ?
Oui, on voit des évolutions assez fortes. Alors, si on commence par l'hiver, on a par exemple le ski de randonnée qui s'est fortement développé de manière générale en France, mais au cœur du parc national des Écrins, comme il est assez haut en altitude, il est souvent privilégié des skieurs quand il y a peu de neige ailleurs. Donc, c'était pas le cas de l'hiver 2017-2018 parce que c'était un hiver très enneigé. Donc là, le fait qu'il y ait de la neige de partout, ça répartit les skieurs de randonnée de partout. Mais l'hiver d'avant, donc le 2016-2017, où il y avait très peu de neige, et les passionnés de ski allaient en altitude. Et donc là, on a connu, cet hiver-là en particulier, une hausse de la fréquentation par les skieurs de randonnée en cœur de parc, donc en nombre, et aussi plutôt en saison. Donc ça fait des changements assez conséquents.
Pour vous, au sein du parc national des Écrins, c'est problématique ? Une fréquentation plus importante ?
Alors ça nous interroge, puisque de par son isolement et sa difficulté d'accès, le cœur de parc est généralement assez peu fréquenté par les skieurs en hiver, puisqu'il y a aussi des accès très très longs, puisque les routes ne sont pas déneigées, hein, tout simplement, parce que c'est trop compliqué à faire. Et du coup, on se retrouve avec une fréquentation à une époque où il y a normalement personne.
Donc,
il y a
une espèce des personnes qui se mettent en danger, ça veut dire ?
Alors là, non, les personnes prennent leur propre responsabilité, hein. C'est-à-dire que, par exemple, ce fameux hiver 2016-2017, on pouvait mettre les skis, on pouvait aller en voiture presque jusqu'au près de Madame Carle en décembre.
Oui.
Donc on pouvait aller skier sur le glacier blanc en décembre, alors qu'à cette époque de l'année, normalement, il faut partir de Pelvoux, ce qui rajoute 5 ou 6 kilomètres de plat et qui sont la plupart du temps réparbatifs pour les skieurs. Et du coup, ils ne vont pas en décembre auprès de Madame Carle.
Alors, est-ce que ça veut dire une mise en danger pour la faune ?
Alors, ça peut être un problème de... Il peut y avoir un trouble des animaux qui, en période hivernale, sont les plus susceptibles de se fatiguer très vite si on les fait se déplacer rapidement et souvent. Donc ça pose un problème pour la survie des animaux en hiver, en particulier donc les chamois, enfin les ongulés, et les tétraliers aussi, la gopède.
Alors vous faites campagne pour sensibiliser les pratiquants là-dessus, ou bien ils savent déjà ?
Alors là, ce qu'on remarque de manière générale, et là je ne parle pas qu'au sein du parc, puisqu'on travaille à plusieurs espaces protégés sur ces questions, parce qu'il y a d'autres espaces qui ont des expériences dans le domaine, et on se rend compte que quand il y a du dérangement par des personnes, en général c'est une méconnaissance des choses plutôt qu'un dérangement volontaire.
Et donc là, besoin de pédagogie.
Voilà, il y a un besoin de pédagogie et il y a un outil qui s'est mis en place il y a à peu près un an et demi à l'initiative de la LPO de l'Isère qui s'appelle Biodiv Sport, qui est un outil informatique qui va permettre aux gestionnaires d'espaces naturels, comme le parc national des Écrins, mais celui du Vercors ou d'autres parcs, d'envoyer de la donnée naturaliste sur des sites internet de pratiquants. Ainsi, quand un skieur de randonnée voudra faire un itinéraire à un endroit, en général, il va sur un site, par exemple, Camp to Camp, on va dire, au hasard. Bon, c'est pas tout à fait le hasard, mais... Et quand il clique pour avoir les informations sur son itinéraire, il y a une carte qui apparaît. Et s'il y a une zone de quiétude pour la faune, elle va apparaître directement sur son topo, sur son itinéraire. Et donc là, il aura l'information directement. Et en faisant glisser sa souris, il aura, sur la zone en question, il aura les espèces concernées qui apparaissent. Et en cliquant sur l'espèce, il pourra aussi avoir la biologie de l'espèce. Donc là, on va dire que c'est un outil de sensibilisation qu'on espère très performant, alors qu'il se développe. On a mis en place quelques zones de quiétude l'année dernière dans le parc des Écrins. On les a mises sur le site. Et après, c'est un outil qui a vocation à être partagé avec les pratiquants. C'est-à-dire que les zones qu'on va mettre en ligne, elles doivent être concertées avec les pratiquants. Et ça veut dire que ça ne va pas être les gestionnaires d'espaces protégés qui va dire stop. Voilà. Donc on les associe dès le début à la mise en place de, au dessin, tout simplement, de la zone sur la carte. Et ensuite, on diffuse le plus largement possible par ces moyens Internet.
Alors, cet outil dont vous parlez a été créé par la LPO, vous dites.
Alors, c'est
le parc participe aussi.
La LPO est à l'initiative du projet et a porté le projet. Et donc, c'est elle qui a organisé les réunions de travail, etc. Et donc, j'ai pas en mémoire tous les participants, mais le Parc National des Écrins faisait partie des gens qui étaient associés au travail, en particulier parce que le Parc National des Écrins a une cellule informatique très très performante. Et le gros travail c'est pas du tout mon domaine, mais c'est que les bases de données des gestionnaires puissent parler avec celles des sites de pratique. Et donc là, le Parc National des Écrins a des compétences en interne. Et donc le travail du parc a été très, très important dans ce domaine-là.
Et ça veut dire aussi que petit à petit, les pratiquants de la haute montagne sont sensibilisés à cet aspect-là.
Oui, vraiment, en tout cas, c'est notre objectif. Donc ça avait déjà été aussi le cas auparavant et ça continue par des expositions, des informations sur des événements un peu festifs comme les courses à Réalon, la Trapanelle, des choses comme ça qui s'appellent, la campagne s'appelait Chute. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc avec des posters, etc.
Avec un beau dessin de Samivelle.
Voilà, exactement. Mmh. Très bien. Et donc là, c'est une autre manière de toucher les pratiquants.
Nosotros,
Señor,
Dans ce magazine consacré à la pratique de la haute montagne, à l'alpinisme, et ceci dans le cadre du Parc National des Écrins et du Cœur du Parc, on a pu observer les informations en ont parlé, de l'évolution de la montagne qui bouge, qui change, des pierres qui roulent, qui tombent, et puis un suivi important qui est fait, enfin important. Vous essayez d'adapter, vous, le Parc National des Écrins et vos partenaires, des recherches pour savoir ce qui se passe et comment pratiquer. Vous avez des chiffres aussi.
Alors, on a des chiffres sur les glaciers, par exemple, mais juste avant, je voulais, en introduction, enfin, vous parler du réchauffement climatique en chiffres, puisque là, on a des données à l'échelle de l'arc alpin, et plus particulièrement pour la France, par un météorologue qui s'appelle Monsieur Christophe Schex, qui travaille à Chambéry, et qui a travaillé sur les données de deux stations météo, donc celle d'Embrun et celle de Bourg-Saint-Maurice, depuis 1951 jusqu'à 2016. Moi, c'est les chiffres les plus récents que j'ai. Et donc, sur ces deux stations météo, il a mesuré pour Embrun une hausse moyenne des températures de plus 1,9 degrés, et pour Bourg-Saint-Maurice de plus 2,1 degrés. Et donc, les météorologues font à peu près tous les mêmes observations dans les Alpes, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, il est deux fois plus fort, en fait, dans les Alpes qu'en plaine, où le réchauffement climatique est considéré de l'ordre de autour de 1 degré. Donc ça, c'est juste pour poser les bases.
Oui, voilà, on sait de quoi on parle, oui, voilà. Effectivement, avec des chiffres comme cela, qui sont carrément inquiétants.
Oui, qui sont très importants et qui ont des conséquences très visibles, en haute montagne en tout cas.
Voilà, notamment cet été, est-ce que vous pouvez récapituler un petit peu ce que vous avez pu observer au cours de cet été ?
Alors, tout d'abord, je vais parler d'événements qui sont les séracs qui sont tombés au dôme, qui sont tombés deux fois en août et en juillet et en août. Au dôme des Écrins, donc des séracs très très gros qui sont tombés, alors ce qui n'est pas inhabituel, mais là c'est l'ampleur de ce qui est tombé qui est impressionnant. Mais juste pour dire que là, par contre, en fait, les séracs, quand ils tombent, c'est tout simplement que le glacier, il avance. Et donc, quand il y a un mouvement de terrain, et ben, ça fait des endroits où les séracs peuvent se décrocher. Et là, par contre, c'est pas lié au réchauffement climatique. C'est lié
simplement... Oui, ils ont toujours avancé, les glaciers.
Voilà. Les glaciers ont toujours avancé. Et un sérac qui tombe, c'est pas lié au réchauffement climatique. C'est tout simplement lié à l'avancement du glacier. Donc, un sérac peut tomber par moins 20 degrés, comme par plus 2, quoi. Donc ça, c'était juste pour rappeler ce fait. Après, on a eu une chute de pierres très importante à la Meige, au glacier Carré. Donc ça, c'était le 7 août dernier. Donc je pense que les auditeurs intéressés à la question, ils doivent s'en souvenir. Et donc c'est parti en haut du glacier Carré et la chute est tombée, de pierre est tombée sur la voie normale. Donc on parle même d'un écroulement. Puisque là, en fait, la différence entre éboulement et écroulement, c'est le volume des matériaux qui tombent. Et donc là, avec quelque chose de vraiment très très gros, avec heureusement aucune victime humaine, bien qu'il y ait eu des gens dans la voie, puisque c'est tombé à un moment où il y avait des gens dans la voie.
Ils ont dû avoir chaud, là.
Voilà, donc il y a deux personnes qui ont été évacuées par hélicoptère, mais qui étaient blessées simplement, heureusement.
Et ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que ce genre de phénomène se multiplie ?
Alors on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on sait simplement que le réchauffement climatique il est engagé, qu'il va très vite, peut-être plus vite que ce qu'on aurait pu penser avant. Et en fait, en tout cas pour ce qui est éboulement et écroulement rocheux, il s'agit en fait du recul à l'intérieur de la montagne du permafrost. Donc, c'est-à-dire que la permafrost, c'est la zone qui est en permanence en température négative à l'intérieur des montagnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est bien souvent le ciment qui tient les rochers en montagne, c'est de la glace. Et quand ce permafrost recule à l'intérieur de la montagne, ça veut dire qu'en surface de la montagne, on a des zones où il n'y a plus de glace, ou alors cette glace commence à suinter, à avoir de l'eau qui est à sa surface. Et donc là, le ciment qui tient les rochers, il n'est plus là, et donc les rochers tombent.
Okay. Oui, donc comme je disais, il va falloir s'attendre à ce que ça se multiplie, c'est avec ce ciment qui disparaît ?
Oui, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ça augmente. Après, malheureusement, je ne suis pas devin et c'est compliqué de pouvoir en parler.
À propos du permafrost, est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu quantifier, ce recul ?
Alors, le chercheur spécialiste du domaine en France, c'est Ludovic Ravanel, et lui, il travaille principalement sur le massif du Mont-Blanc. Et là-bas, donc, comme ils ont des infrastructures qui sont construites sur du permafrost, là, c'est en particulier la gare d'arrivée du téléphérique de l'Aiguille du Midi, il a eu des moyens pour pouvoir installer des sondes de température à l'intérieur de la montagne. Il a fait des forages jusqu'à 20 mètres de profondeur dans le granit à l'Aiguille du Midi. Et donc là, il a une idée de comment évolue la température à l'intérieur de cette montagne. Et grâce à ce qu'il a pu mesurer, il a modélisé des zones où potentiellement le permafrost va se dégrader, donc c'est-à-dire des orientations de montagne et des tranches d'altitude. Mais il a fait ça pour le massif du Mont Blanc. Et pour les écrins, il n'a pas encore eu le temps d'investir, on va dire, ce champ de recherche sur les écrins particuliers. Et donc, sur les écrins, on n'a pas d'endroit où on mesure la température à l'intérieur de la montagne pour l'instant.
Et le constat, il remonte à quand ? Le constat de la disparition de ce ciment dont vous parliez.
Alors là, malheureusement, je suis pas spécialiste de la question, donc faudrait. Ouais. Voilà, je serais un peu sec pour vous répondre, mais on sait depuis un moment que c'est la glace qui joue ce rôle de ciment. Alors, il y a eu des gros écroulements rocheux cet été sur la vallée de Chamonix, à l'aiguille du Midi notamment, en face sud, et puis au Trident du Tacu. Et là, si vous recherchez sur Internet, si vous trouvez des photos, il y a des photos qui ont été faites. On voit très bien donc les cailloux par terre, du sable sur la paroi, et puis quelque chose qui brille, et c'est de la glace. Et donc là, on voit bien que là où c'est parti, on a de la glace et des cailloux posés, du sable. Donc on voit bien que c'est la glace qui est le ciment. Après, il y a une histoire de nature de la roche qui est importante aussi, puisqu'on n'a pas la même roche dans le massif des Écrins que dans celui du Mont Blanc. Donc les éboulements ou les écroulements seront peut-être de taille moins importante dans les Écrins, puisque la roche est faite de manière différente, on va dire.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que si on aime et on pratique l'alpinisme, il y a une attitude à tenir, des zones de risque qu'est-ce que vous préconisez face à ce phénomène qui va être long, qui est de grande ampleur ?
Moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de planifier ses courses à l'avance. Et puis surtout d'interroger les gens qui sont sur place. Donc si on va à une course qui part d'un refuge, qui est souvent le cas en montagne, le mieux c'est d'appeler le gardien pour savoir comment est la montagne, dans quelles conditions. Et puis aussi d'appeler les bureaux des guides locaux pour savoir, eux, qu'est-ce qu'ils pensent de la pertinence d'aller faire telle course à telle date. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment prendre ces précautions, puisque là, typiquement, quand il y a eu l'écroulement rocheux à la Meije, c'était le 7 août, et si vous appeliez la compagnie des guides écrins voisins juste après, ils vous disaient que eux, ils n'y allaient plus.
Voilà. Donc après, c'est ce qui a été dit, voilà, ouais. Que c'était une voie qui ne serait plus pratiquée.
Alors, ils disaient qu'eux-mêmes, ils n'y allaient pas parce qu'ils pensaient que les risques étaient trop élevés. Donc après, en montagne, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, l'autonomie, c'est aussi gérer sa sécurité. Et là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre un maximum d'informations. Et puis, en tant que guide, on a aussi souvent ce qu'on appelle, nous, des plans B. C'est-à-dire prévoir autre chose si la course n'est pas en condition.
C'est ce qu'on peut voir aussi avec les risques d'avalanche, par exemple.
Voilà, tout à fait. Avec les risques d'avalanche, c'est pareil. Il faut bien se renseigner. Là, je pense que pour les courses de montagne, ça devient un petit peu peut-être la même attitude qu'il faut avoir. C'est-à-dire que la montagne est peut-être moins immuable qu'avant. Il faut peut-être décaler ses courses plutôt en saison. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Mais surtout, s'informer et s'informer localement. Oui.
S'agissant de glaces qui font, hein, de permafrost qui font, est-ce que il faut comprendre que ce sont les parois sud qui sont les plus exposées à ce risque de chute de pierre ?
Alors là, comme je vous disais, on a trop peu d'éléments sur les écrins pour pouvoir se prononcer, puisque le réchauffement climatique il a lieu de tous les côtés. Alors c'est vrai qu'en nord, surtout en hiver, le rocher ne voit pas du tout le soleil, donc on peut penser que la période pendant laquelle l'intérieur de la montagne peut se réchauffer va être plus courte qu'en sud. Mais là, c'est que des suppositions. Mais...
Est-ce qu'à terme, la montagne va devenir trop dangereuse ?
Alors, c'est difficile à dire aussi, puisque on voit, dans je discute avec des collègues guides, ils reportent des courses sur des courses qui ne se faisaient plus, parce qu'elles étaient passées de mode ou autre, et finalement, on redécouvre le massif d'une autre manière. Donc, je pense que le mot-clé, là, c'est adaptation. On s'adapte à ce qui arrive, puisque de toute façon, maintenant, les choses sont lancées. Donc, on peut essayer de ralentir, mais on est plutôt dans une stratégie de s'adapter. Et non, je pense que la montagne sera toujours praticable, mais différemment. Il y a beaucoup de choses tout ce qui est course de neige, il faudra les faire beaucoup plus tôt en saison. Il y a peut-être des endroits où il faudra pas du tout aller au mois d'août, par exemple. Mais on sait qu'on a d'autres endroits, potentiellement, où on peut faire de très belles excursions, très sauvages, dans le massif.
Et pour la Meije, c'est cuit ?
Alors pour la Meije, moi j'ai assisté à des réunions où on s'est un petit peu posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc on avait trois hypothèses de travail qui étaient purgées, ce qui ne tient pas, donc ce qui s'avère impossible, hein, puisqu'il y a encore des cailloux enchâssés dans la glace, il y a sans doute d'autres parties qui sont instables, mais là on n'y est pas allé sur place, on a envoyé un drone avec l'autorisation du parc, enfin, c'est des collègues guides qui ont fait ça, qui ont fait des photos. Et donc la possibilité de purge est simplement écartée, c'est infaisable. Donc après, les deux autres possibilités qui restent, c'est d'y aller plutôt en saison, c'est-à-dire quand il y a encore de la neige sur le glacier carré qui maintient tout ça. Et puis la troisième possibilité, ce sera peut-être de trouver une autre voie normale, qui sera plus celle qu'on connaît, ou qu'on connaissait. Mais parce que là, il existe une voie qui part de la brèche de la Meije, qui est l'arête ouest. Et donc il y aura peut-être quelque chose à inventer. Voilà.
Qui n'existe pas pour le moment.
Qui n'existe pas pour l'instant.
Est-ce qu'il y a d'autres secteurs de haute montagne en cœur de parc qui semblent menacés, qui pourraient disparaître aussi à court terme ?
Je pense qu'on a, principalement des courses de neige, ce qu'on appelle nous des courses de neige qui sont menacées, parce que justement la période de neige est de moins en moins longue, et puis les glaciers qui sont sous-jacents sont petits, donc ils risquent de disparaître. Donc là, on a des courses. Alors je ne sais pas vraiment si elles sont menacées, il faudra peut-être les faire à d'autres saisons, comme je vous disais. Là, il y a un jeune guide là, qui a le projet de faire les 100 plus belles de Rébuffat dans les écrins. Et donc c'est un livre qui a un certain âge, et certaines courses dans ce livre sont indiquées comme des courses à faire en été. Et lui, il sait très bien qu'il va être obligé de les faire en hiver.
Donc on s'adapte, on se rapproche du cœur de l'hiver pour faire de la haute montagne qu'on faisait auparavant en été.
Voilà.
Le métier de guide de haute montagne est-il en danger aujourd'hui ?
Je pense qu'il est en mutation, en danger... J'aurais du mal à le dire. Je pense que j'ai la chance de rencontrer de temps en temps des jeunes guides qui sont très heureux de faire ce métier, qui arrivent à le faire à l'année. Et donc, je pense que la profession a quand même de l'avenir, mais elle a vraiment un gros souci avec ce réchauffement climatique, un travail d'adaptation à faire sans cesse, une remise en question à faire très souvent. Et je pense que c'est compliqué, mais le métier fait toujours rêver les jeunes et... on a aussi d'ailleurs beaucoup de jeunes femmes qui arrivent, enfin beaucoup en proportion par rapport à ce qu'il y avait avant, comme guide féminine. Et donc je pense que la profession se porte bien. Mais voilà, le métier a beaucoup changé. Et malheureusement, les guides sont obligés, par exemple, de beaucoup se déplacer, alors ce qui est en contradiction avec ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais en tout cas, les guides prennent à bras-le-corps cette question. Voilà.
Oui, à l'inverse, il y a quand même toujours une population qui cherche à se surpasser, à faire de la haute montagne, parce que c'est un... Qu'est-ce qu'ils vont chercher, ces gens-là, quand ils veulent faire de...
Alors après, ça dépend beaucoup des clients. On a des gens qui veulent plus un exploit sportif. On en a d'autres qui veulent tout simplement se déconnecter d'une vie citadine qu'on imagine stressante. Et donc trouver tout simplement le temps de ralentir. Moi, je vois en discutant avec Freddy Mignan, le gardien de la Meije, il voit, lui, il a gardé 10 ans ce refuge, et il s'est rendu compte, mais il l'a aussi promu, en fait, que les gens faisaient de plus en plus la traversée de la Meije en deux jours, c'est-à-dire qu'ils faisaient une nuit au promontoire et une nuit au refuge de l'Aigle pour rester plus longtemps en montagne, profiter plus longtemps de la beauté des lieux, en fait, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a
ce besoin de débrancher.
Voilà, ce besoin de débrancher, d'être dans quelque chose qui n'est pas du tout anthropisé, quoi, par les refuges. Je me souviens plus du début de votre question.
Mais oui, bah voilà, c'était de voir un petit peu si pourquoi on fait de la montagne, pourquoi est-ce qu'on on y va et
Oui, voilà, je pense que les motivations sont différentes suivant les gens, et je pense aussi, mais ça c'est plus personnel, mon expérience, c'est suivant l'âge aussi. On n'y cherche pas la même chose, suivant l'âge qu'on a.
Très certainement, et suivant les origines géographiques ou le type de vie qu'on vit.
Oui, sans doute.
Bon, vous êtes quand même, donc vous restez, et ce sera la fin, la dernière question de cette émission, vous restez optimiste par rapport à la pratique de la haute montagne et de ce qu'on y fera aujourd'hui, même si, enfin demain, et même si ça évolue.
Oui, moi je reste optimiste, bien sûr. Oui, je continue à y aller et à me faire plaisir.
Et il y aura toujours des glaciers ?
Alors là, ça va aller très très vite pour ceux qui sont en dessous de 3500 mètres. Les spécialistes estiment que, enfin pour les Alpes, je parle des Alpes, mais ceux qui sont en dessous de 3500 mètres d'altitude, ils en ont pour 10 à 20 ans. Donc là, ça va aller très très vite. Alors malheureusement, ça va être dur pour les générations qui arrivent. C'est vrai que moi, comme d'autres, j'ai des enfants et c'est vrai que je les emmène maintenant et je me dis qu'est-ce qui va leur rester, quoi. Alors après, nous, le parc, on travaille, on étudie très finement le glacier blanc, parce qu'il part de 4000 mètres, et on sait que celui-là, il va durer plus longtemps. Mais pour les autres, ça va aller très très vite.
Bon, eh bien écoutez, merci Julien Charron de nous avoir permis d'aborder de plus près ces sommets qui nous sont si inaccessibles. Et puis espérons que quand même ces glaciers resteront à nos côtés un certain temps.
Merci.